Bonjour à tous. Nous n'aurons pas d'histoire spéciale pour les enfants aujourd'hui, mais c'est une histoire spéciale en elle-même. L'histoire, vous la connaissez, c'est une histoire que l'on nous raconte tous les ans, la même qui existe depuis déjà 2000 et quelques années, on n'est pas sûr. Il est très intéressant de voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont raconté ces histoires. Et il y a particulièrement quatre personnes qui ont raconté cette histoire et que vous trouvez dans la Bible. Connaissez-vous ces quatre personnes? Ce sont les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ils l'ont tous raconté un peu d'une façon différente. Et il est très intéressant de voir que dans l'évangile de Matthieu, il y a quelque chose de spécial. Il va nous raconter l'histoire de la persécution des enfants. Le roi Hérode n'est pas content parce qu'il a entendu parler qu'il y a un roi, un autre roi que lui ou que ses enfants, qui est né. Oui, Jésus, vous avez deviné. Et que va-t-il se passer? C'est que Hérode va rentrer dans une colère et il va vouloir tuer tous les enfants qui est, voilà, jusqu'à 2 ans, qui habitaient à Bethléem. Est-ce que vous savez que veut dire Bethléem? C'est une ville, oui. Et vous savez que les Juifs aiment bien donner un nom qui a une signification. C'est-à-dire, il y a un sens derrière. Et vous savez que veut dire Bethléem? Oui. Ah, la maison du pain. Il y a des grands enfants qui aiment bien répondre aussi, hein. La maison du pain, merci. Il est très intéressant de voir que la ville de Bethléem était très connue et on va en parler. Aujourd'hui, on va beaucoup parler du pain. Et il y a un pain qui est tout particulier. On l'appelle le pain de vie. Vous savez, c'est quoi le pain de vie? Jésus, le pain de vie. Et alors attendez, on va essayer de réfléchir ensemble. Bethléem, ça veut dire quoi? La maison du pain. Alors, pas le pain de vie, mais la maison du pain. Oui. Donc, il était très bien que Jésus naisse dans la ville de la maison du pain. Oui, puisqu'il est le pain de vie. Mais quand Hérode a voulu le tuer, il est parti où?
En Israël.
Ah non, pas en Israël, justement pas. Oui. Il n'est pas parti à Bethléem, non. Il est parti? Pas à Nazareth, il est parti en Égypte. Et là, petite note technique pour les adultes. Il est très intéressant de voir que dans l'histoire d'Israël, il ne fallait pas retourner en Égypte. On était déjà dans la terre promise d'Israël. On était déjà dans la maison du pain. Et il y avait le Messie qui était né. Mais que s'est-il passé? C'est que les gens ne l'ont pas reconnu. Les gens n'ont pas cru qu'il était le pain. Quand sa mère a voulu accoucher, on l'a envoyé dans une étable. Quand Jésus est né, on a voulu le tuer. Seules quelques personnes l'ont reconnu. Et Jésus est parti, est reparti en Égypte, dans cette terre d'esclavage, parce que Jésus et Dieu voulaient montrer que nous allions refaire le même parcours, le parcours de la libération. On allait de nouveau le refaire. Alors, c'est un peu complexe, mais j'aimerais juste que vous reteniez cette première idée. À Bethléem, la maison du pain, quand Jésus est né, malheureusement, les gens n'ont pas vu qu'il y avait du pain. Ils ont cru qu'il n'y avait pas de pain. Et donc, il n'y avait plus de pain à la maison du pain. J'aimerais maintenant que vous puissiez écouter un morceau de violon. C'est un chant qui nous permettra de méditer sur le fait que, justement, bien souvent, le Seigneur est à côté de nous. Il est là, mais nous oublions qu'il est là pour nous accompagner. Nous oublions qu'il est là pour être notre pain de vie. Vous savez que dans la Bible, il y a quelqu'un qui a multiplié des pains. Multiplier, ça veut dire diviser et faire beaucoup de pain. Vous savez qui ? Jésus, oui. Et il y a une autre personne qui a multiplié des pains. Ah, hein. Là, on va peut-être demander à des grands-enfants. Il y a une autre personne qui a également multiplié des pains dans l'Ancien Testament. Et normalement, en voyant ça, vous savez tout de suite, oui, tiens. Alors, Élie, ouais, presque. Élisée. Oui. Pas Élisabeth, Élisée. Élisée. On s'arrête à Zé, pas Zabeth. Et donc, il est très intéressant de voir que dans cette histoire, nous allons avoir quelque chose de très similaire. La Shunammite était une dame que Élisée a aidée. Vous trouvez cela dans 2 Rois au chapitre 4 et au chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5. Pour ceux qui veulent le prendre. Et dans 2 Rois au chapitre 5, vous avez donc cette Shunammite, une dame qui n'avait pas d'enfant. Et comme elle n'avait pas d'enfant, elle a crié au Seigneur et Élisée a prié, a intercédé pour elle et le Seigneur a permis qu'elle ait un enfant. L'enfant est mort. Et le Seigneur, au travers Élisée, a permis de ressusciter l'enfant. Et il est très intéressant de voir que le texte va présenter quelque chose de très intéressant, c'est que Élisée va faire une prophétie, c'est-à-dire il va prédire quelque chose, il va expliquer que quelque chose va se passer. Et vous savez qu'est-ce qu'il va dire à la Shunammite? Il va lui dire... Tu dois partir. Tu dois partir comme Jésus. Pourquoi tu dois partir? Parce qu'il va y avoir une guerre, oui. Et parce qu'il y avait la guerre, il y avait aussi une famine. Et donc, elle va partir et elle va bien vivre. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et au chapitre 7, la Shunammite va revenir. Mais au chapitre 6, 2 Rois chapitre 6, les versets 24, 25 jusqu'à 28, la Shunammite n'est plus là. Elle n'a pas de problème parce qu'elle, elle a écouté Élisée. Mais les autres qui n'ont pas obéi à Élisée, ils n'ont pas obéi à Dieu. Que va-t-il se passer? Il y a une famine. Est-ce que vous savez ce qu'est une famine? Une famine, c'est quand il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus de Élisée venait de multiplier beaucoup de pain, mais il n'y avait plus de pain parce que le peuple n'avait pas écouté Dieu. Et le verset 25, 2 Rois chapitre 6, verset 25 nous dit que les Israélites vont commencer à payer 100 pièces d'argent pour une tête d'âne. Ils ont tellement faim. Mais est-ce qu'on mange des ânes? En plus, les Juifs. On donne de l'importance à des choses qui ne sont pas importantes. C'est la famine. Quand nous n'obéissons pas à Dieu, nous commençons à apporter de l'importance à des choses qui ne sont pas importantes. En période de Noël, on va commencer à dire « Ah non, moi je voulais ça. Ah non, moi je voulais ça. » Où nous sommes en train de nous disputer avec nos frères et sœurs, nos maris, nos femmes, nos enfants, pour des choses qui n'en valent pas la peine. On apporte de la dans la maison qui n'a plus de pain parce qu'il y a la famine, de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Quand il nous manque le pain de vie, quand il manque Jésus dans notre vie, nous donnons trop d'importance à ces choses-là. Et au verset 27, ils vont commencer à faire des choses terribles. Ils vont commencer à manger des... Je laisse les parents le regarder. Ils mangent des choses qu'il ne fallait vraiment pas manger. Ils mangent des bébés. Alors, quand il manque, vous voyez, alors, c'est un sens illustré. Ça veut dire que c'est une histoire pour raconter certaines choses. Vous connaissez l'expression « on se mange les uns les autres » ? Non ? On se tape les uns les autres peut-être ? Parfois, c'est quand nous nous disputons, d'accord ? Au lieu de regarder à Jésus dans notre église ou dans notre famille, nous nous mangeons les uns les autres. C'est-à-dire nous nous disputons. Nous ne nous concentrons plus sur le pain de vie. Nous nous concentrons sur les autres. Parce que nous avons faim et nous mordons les autres. C'est une image. Et il est très intéressant de voir qu'il y a une dernière chose qu'ils vont faire. Le peuple va commencer à crier, et vont crier à qui ? Normalement, quand ils avaient un problème, le peuple d'Israël criait à qui ?
À Dieu.
À Dieu. Mais là, ils ne vont pas crier à Dieu, ils vont crier à qui ? Dans l'histoire de Samarie, ils vont crier, non, ils vont crier au roi. Au roi d'Israël. Ils vont crier au roi d'Israël. Ils ne vont pas crier au roi des rois, ils vont crier au roi d'Israël. Et le roi d'Israël ne pourra pas leur donner de solution. Souvent, quand nous avons des problèmes, nous crions à qui ? Dieu ? Vous êtes sûr ? On crie souvent aux parents ? On crie souvent à notre compte en banque, hein? Ah oui, à demander aux parents, d'accord? Quand il y a un souci, nous nous adressons souvent à d'autres choses et nous mettons le roi des rois de côté. Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui habitait aussi à Bethléem. Ah, vous avez vu? Mais non, Ruth n'habitait pas à Bethléem, pas au début. de son histoire. C'était Noémie. Noémie habitait à Bethléem, dans la ville de la maison du pain. Et au début de l'histoire de Noémie, vous savez ce qu'il se passe ? Il y a une grande famine. Vous vous rappelez le mot ? Le mot famine, c'est quand il n'y a pas de nourriture. Donc, il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Ah, on va y arriver, hein, à la fin de la journée. Et comme il n'y a plus de pain dans la maison du pain, Noémie, son mari et ses deux fils partent là où il ne fallait pas partir. On l'a vu ce matin à l'école du sabbat. Il ne fallait pas aller à Moab. Et ils sont partis à Moab. Pourquoi ? Parce qu'ils espéraient avoir de la nourriture. Et une fois de plus, c'est une histoire un peu spirituelle. Quand nous avons des problèmes chez nous, on regarde toujours ailleurs. Au lieu d'essayer de régler les problèmes chez nous, on essaie toujours de régler les problèmes chez les autres. Si vous avez des frères et des sœurs, vous savez comment cela se passe, n'est-ce pas ? Ce n'est pas moi, c'est mon frère. Oui, mais c'est lui qui a... Non, mais c'est lui qui... C'est... Et on veut toujours fixer les choses hors de nous-mêmes. Et l'histoire est très intéressante parce que Ruth, qu'est-ce qu'elle va dire ? Vous vous rappelez la phrase la plus importante dans Ruth ? Quelle est la phrase la plus importante dans Ruth ? Vous vous rappelez ? Qu'est-ce que Ruth a dit à Noémie ? Ton Dieu sera mon Dieu. Et Dieu est quoi ? Le pain de vie. Ah, oui, Dieu est Dieu, tu as raison. Et Noémie va partir, repartir à Bethléem avec Ruth. Et Ruth va travailler dur pour faire quoi ? Alors, pour avoir de l'argent, oui, mais pour avoir de la nourriture, oui. Elle va glaner du blé, glaner, c'est ramasser le blé, pour pouvoir faire du pain tous les jours. Et parce qu'elle a reconnu que Dieu, le Dieu de Noémie, devenait son Dieu, elle a été une bénédiction pour sa famille. Et nous pouvons être les mêmes quand nous mettons le pain de vie, quand nous mettons Dieu dans notre vie. Eh bien, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. C'est-à-dire, nous pouvons leur faire du bien. Quand nous regardons à Jésus et que nous faisons comme Jésus, nous pouvons ramener du pain dans la maison. Nous terminons notre parcours avec... Voilà. Avec un des grands miracles de Jésus. Et comme vous voyez sur cette image, ou comme vous l'avez vu dans d'autres images, un des grands miracles de Jésus, et je l'ai déjà parlé, est la multiplication des pains. Vous connaissez ce miracle ? Oui ? Alors, Jésus reçoit combien de pains ? Trois ? Cinq. Et il reçoit combien de poissons ? Deux, trois, 4. Allez, qui dit plus? 5 pains et 2 poissons. Alors, les biblistes me diront, oui, mais il y a 2 multiplications des pains. Alors, en fait, il y a eu 2 multiplications des pains. D'accord? Il y a eu 2 fois. Mais je vais vous parler de la fameuse multiplication avec l'enfant et Jésus. Et il est très intéressant de voir que personne ne voulait partager ou alors n'avait de nourriture. Et c'est un enfant qui a voulu partager 5 pains avec des milliers de gens. Si vous partagez 5 pains avec des milliers de gens, ça fait quoi? Une petite miette chacun? Ah ben si. Si vous prenez 5 pains et que vous les divisez en des milliers de personnes, ça ne fait que quelques miettes pour chacun. Oui? Mais il est très intéressant de voir que Jésus qui est ce pain et qui veut que tout le monde ait à manger, a permis cette multiplication. Mais je ne veux pas m'arrêter seulement à la multiplication, parce que Dieu veut que nous ayons du pain de vie aussi. Il est très intéressant de voir qu'à la fin de l'histoire, il y avait des restes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tout mangé. Et il restait combien de paniers? 5? Non. 12 paniers. 12 paniers comme... Il y avait 12 quoi aussi? 12 apôtres. Donc, il restait un panier pour... chacun des apôtres. Et il est très intéressant de voir que dans cette multiplication des pains, quand les gens n'avaient pas à manger, Jésus a demandé à qui de donner à manger? Est-ce qu'il a demandé aux petits garçons de donner à manger aux autres? Il a demandé à qui de donner à manger? Il a demandé aux apôtres, donnez-leur à manger. Or, les apôtres avaient dit quoi? Nous n'avons pas de... nourriture, nous n'avons pas de pain. Les adultes auront fait la notion de l'image. Mais il est très intéressant de voir qu'à la fin de l'histoire, les apôtres ne peuvent plus dire qu'ils n'ont pas de pain. Ils ont du pain à volonté. Et ils savent que Jésus, à tout moment, peut le multiplier. Et c'est un peu ça le message que nous avons à Noël. Ce n'est pas toujours des sapins, des guirlandes, des cadeaux, mais c'est cette idée, cette histoire du pain de vie. Notre pain de vie, c'est qui? Dieu, Jésus. Et en mettant Jésus dans notre vie, nous pourrons toujours avoir à manger, de la nourriture spirituelle. Nous pourrons toujours être meilleurs et nous pourrons toujours être des bénédictions pour les autres. Eh bien, que nous puissions être des bénédictions jour après jour.